Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone Noémie Gaillard. Bonjour.
Bonjour.
Noémie, vous êtes chargée de mission vie associative et jeunesse au sein de l'association Biéau-Vallée.
Oui, c'est ça.
Nous avons aussi Karine Melzer, bonjour.
Bonjour.
Présidente de Biéau-Vallée également.
Tout à fait.
Et Claude Véret, administrateur de Biéau-Vallée et aussi membre, créateur, fondateur des rencontres de l'écologie et qui était en partenariat avec Biéau-Vallée. Hein. Voilà. Et alors, vous êtes ici pour nous annoncer une date, cette assemblée générale qui aura lieu ce 4 avril de 17h30 à 20h. Il y aura une assemblée générale ordinaire et extraordinaire, mais avant, il y aura aussi une journée intitulée « Les rencontres annuelles 2025 » et ça commencera à partir de 9h. Ça se passera à l'accueil Saint-Joseph à Alex. Et donc, pour ces rencontres, si ça s'adresse à un public particulier ou alors c'est ouvert à tous ?
Eh ben, on a fait le choix, effectivement, de ne pas restreindre notre assemblée générale au temps formel, mais de s'offrir une journée entière et qui s'adresse en premier lieu à nos adhérentes et adhérents, parce que c'est un temps d'échanges et de rencontres autour de l'association, mais c'est aussi ouvert à toutes celles et ceux qui sont curieux de l'association, qui veulent en savoir un petit peu plus et la découvrir d'un peu plus près. Bah, du coup, il y a tout un programme et peut-être que Noémie, elle ne peut nous présenter ça, puisque c'est elle qui est la cheville ouvrière dans l'association pour monter ces rencontres annuelles et cette assemblée générale.
Alors Noémie, pour vous, quelle est l'importance de ces rencontres ?
Alors, l'idée, comme disait Karine, c'était de proposer un temps fort annuel à nos adhérents-adhérentes. Jusqu'à présent, le seul espace où l'ensemble des adhérents pouvaient se croiser, c'était l'Assemblée Générale, qui reste un espace quand même assez formel en termes de format et qui laisse peu de place aux échanges et à l'interconnaissance. Et donc, depuis 2-3 ans maintenant, on étoffe ce temps d'Assemblée Générale par des ateliers, des rencontres, des temps conviviaux sur une journée. Et donc l'objectif, c'est vraiment de permettre à des adhérents de se rencontrer, de faire connaissance entre eux et aussi un peu plus avec l'association Biéau-Vallée. Du coup, cette année, le programme, c'est le suivant. Le matin, il y a des ateliers qu'on appelle les ateliers thématiques, donc ils reprennent en fait les 5 thématiques de travail de l'association. On a des orientations qui ont défini des thématiques pour les années 2023-2026. Et donc là, il y aura 5 ateliers sur ces thématiques-là pour soit faire un état des lieux de là où on en est sur le sujet, soit proposer aux adhérents-adhérentes de contribuer aussi à l'élaboration de réflexions, de feuilles de route sur ces thématiques-là. Et ensuite, l'après-midi, on a prévu ce qu'on appelle un parcours déambulé. Donc là, on expérimente ce format-là dans l'idée principale de laisser du temps aux personnes présentes pour se rencontrer, échanger, tout en allant à la rencontre d'espaces d'animation ou de stands qui seront animés par des personnes de l'équipe et des personnes bénévoles, membres du conseil d'administration, pour découvrir plusieurs sujets en lien avec ce sur quoi travaille l'association en ce moment et un petit peu des sujets aussi annexes, mais qu'on considère importants, en lien avec la transition écologique et sociale.
Claude Véret, ce temps ouvert au public et aux personnes souhaitant s'intéresser à Biéau-Vallée, pour vous, c'est une nécessité ?
Oui, c'est une nécessité. D'abord parce qu'il y a énormément d'acteurs sur ce territoire, hein, de Livron à Luz-la-Crotte, de la Motte-Chalancon jusqu'à la Bâtie-des-Fonds, on va le dire comme ça, qui font des choses qui innovent, qui créent. Et on ne les connaît pas tous. Donc, un temps ouvert, ça permet une connaissance des uns et des autres, ça permet une reconnaissance et puis ça va peut-être permettre de travailler en confiance avec certains qui ne sont pas encore convaincus de cette aventure de la Biéau-Vallée. Donc, ça peut que enrichir le territoire. Et le deuxième chose, c'est que c'est un temps fort où je crois, c'est même peut-être le seul temps fort où des entreprises, des associations, des élus, des citoyens lambda, des écoles, des profs, des universitaires peuvent se croiser et essayer de rêver, de construire une vision territoriale. Et je trouve que c'est un moment privilégié sur ce territoire.
Alors, comme vous le disiez, Noémie, il y a des ateliers thématiques, hein, on peut les énumérer, le pôle des savoirs, écologie industrielle et territoriale, eau, sol et biodiversité, les visites apprenantes et la jeunesse. Alors, on va peut-être détailler un peu chaque proposition. Ce pôle des savoirs, comment se constitue-t-il ?
Alors, le pôle des savoirs, c'est un ensemble assez large. Et là, on ne va pas parler de tout ce qui constitue le pôle des savoirs. Le pôle des savoirs, c'est un espace ressources, mais aussi un espace de personnes qui travaillent à la transmission des savoirs et à la vulgarisation des savoirs. Donc, que ce soit rendre accessibles les travaux de la recherche ou faire connaître des initiatives qui se passent en Biovallée ou diffuser les savoirs locaux. Ça fait partie des missions du pôle des savoirs. Qui peuvent prendre plein de formats différents, la radio, la documentation, la vulgarisation scientifique, du podcast, etc. Et là, sur l'atelier des rencontres annuelles, ce sera un focus particulier, parce que dans le cadre du pôle des savoirs, notre collègue Julie, qui travaille sur ce sujet, fait tout un travail de synthétisation, de capitalisation et de vulgarisation de thèses et de travaux de recherche. Et là, elle va présenter une partie de ses travaux sur la thématique de la trajectoire agroécologique. Et donc, de pouvoir transmettre aux personnes qui seront présentes, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 70, d'après le regard de la recherche, sur la trajectoire agroécologique de la vallée de la Drôme.
Karine Melzer, pareil, pour vous, il y avait cette importance du pôle des savoirs de manière à faire connaître et aussi peut-être amener certaines pratiques pour le futur aussi.
Oui, tout à fait. Le pôle des savoirs, on travaille à son développement depuis 2020. Et là, aujourd'hui, il est vraiment opérationnel depuis c'est la deuxième année, on va dire. Et pour nous, c'est important parce que pour apporter du changement et donc comprendre ce qui se passe et comprendre comment il faut agir, il faut s'alimenter de travaux, de réflexions. Et ça, les chercheurs nous y aident. Et inversement, les chercheurs, pour avoir des recherches qui soient intéressantes et utilisables par les gens de terrain, il faut qu'ils puissent être en contact aussi avec des gens de terrain. Et le pôle des savoirs, il a vraiment cette vocation de créer une convergence entre des chercheurs plutôt théoriques, etc. Et puis des acteurs de terrain qui vont tester des choses et du coup les faire travailler ensemble pour aller plus loin. Et puis ce que disait Noémie, cette question de comment on centralise, on capitalise, on rediffuse du savoir et comment on peut diffuser ce savoir-là à la fois à des chefs d'entreprise, à la fois à des écoles, à la fois à des élus locaux et donc du coup avoir aussi des formes de restitution des travaux scientifiques ou des expérimentations qui puissent s'adapter à différents publics et c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce pôle des savoirs.
Ce pôle des savoirs, c'est une expérimentation propre à Biovallée ou alors est-ce qu'il y a peut-être aussi cette relation entre chercheurs et d'adapter aussi les impératifs d'aujourd'hui, hein, que ce soit pour le climat, l'économie également. Comment s'est articulé justement ce pôle des savoirs entre chercheurs et Biovallée?
Alors, je pense que c'est assez nouveau en Biovallée qu'on ait vraiment cet espace dédié à cet échange entre chercheurs et acteurs de terrain. Après, on a la chance d'avoir un territoire qui a reçu énormément de chercheurs, d'étudiants, et donc bien sûr qu'ils sont allés au contact des gens de terrain pour faire leurs études. Mais là, ça donne vraiment un espace de dialogue et de co-construction d'un certain nombre de projets, hein, de travaux, de recherches, de recherche-action. Après, c'est quelque chose quand même qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on voit bien depuis quelques années qu'il y a une vraie envie de la recherche académique de pouvoir se rapprocher des acteurs de terrain et aussi un vrai besoin des acteurs de terrain de pouvoir analyser avec plus de recul, plus de méthode ce qu'ils sont en train de fabriquer, d'y mettre des mots et de voir aussi comment ça fait écho à d'autres expériences. Et donc, on voit comme ça depuis 5-10 ans, beaucoup plus présent les questions de la recherche-action, qui arrive sur le terrain. Et donc, ces croisements entre monde académique et monde du terrain, je pense que c'est quand même quelque chose qui qui se développe au-delà de Biovallée. Mais donc, nous, on est contents d'avoir pu créer cet espace dédié à ça, en fait.
Illustrer ce que vient de dire Karine, concrètement, comment ça se passe pour nous. Donc, c'est qu'il y a la partie capitalisation des travaux de recherche qui ont déjà eu lieu, mais il y a aussi de pouvoir accueillir des chercheurs qui sont en train de mener des thèses sur le territoire. Et ça nous arrive régulièrement, du coup, d'accueillir des personnes qui démarrent ou sont en cours de rédaction d'un travail de recherche et qui s'appuient sur l'association et sur le réseau territorial pour mener à bien leurs travaux de recherche. Et là, du coup, c'est intéressant, comme dit Karine, d'être dans ce lien recherche-action très concret.
Et comment s'opère ce choix de cette constitution pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des documents qui permettent de retrouver des chercheurs ou des expérimentations ou...
Bah, en fait, ça a été une partie du travail de Julie, qui est notre chargée de mission sur le pôle des savoirs. Ça a été déjà de centraliser effectivement les différents travaux qui ont pu être produits, qui étaient un peu éparpillés à droite à gauche. Voilà, donc elle a effectivement listé et mis de côté tous ses travaux de recherche. Donc quand elle produit après des notes thématiques, elle va s'appuyer sur ces différents travaux. Et puis l'enjeu, c'est aussi de continuer à identifier sur le territoire quels sont les éléments de connaissance, quels sont les travaux de recherche qu'il faut mener pour continuer à mieux comprendre notre territoire, à agir dessus. Et donc l'idée, c'est aussi que ce pôle des savoirs, il puisse répondre à la demande d'élus locaux, de groupements d'entreprises, d'associations qui auraient envie de creuser telle ou telle thématique, d'avoir des éléments de compréhension et aussi des éléments d'expérience d'autres territoires qui puissent nous alimenter.
Justement, j'en venais. Biovallée est devenue à vocation internationale. Est-ce que justement, il y a ces ponts entre la région drômoise et l'international?
Alors déjà, pour confirmer ce que dit Karine et Noémie, c'est vrai que le Diwa et la Biovallée a été un terreau pour des universitaires pendant une bonne quarantaine d'années. À la communauté de communes, il y avait des placards qui étaient pleins des thèses et des masters sur l'agriculture biologique, par le CEMAGREF, par l'INRA, par le CNRS, par l'UNADEL, l'ADELS à une époque. Enfin, ça a été un territoire vraiment propice à ça. Des liens qui ont été entretenus par des gens qui ont enclenché des transitions dans ce territoire il y a 20, 30 ou 40 ans et qui avaient gardé des relations avec le monde universitaire. Donc ça a été une facilitation. Il y a énormément de documents sur le... Donc Julie a du boulot pour répertorier tout ça. Après, c'est vrai que le Biovallée, si l'association a 14 ans, l'idée avait bien démarré bien avant et donc il y a énormément de choses qui avaient été mises en place au niveau européen. International, on modulera un petit peu. Au niveau européen, et en particulier ce qui avait été lancé en 2005-2006 sur le lien avec les biodistricts européens et les territoires ruraux, les territoires en transition. On a pu, Karine d'ailleurs y est allée une fois en Espagne, on a pu tenir des liens avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Grèce, avec Chypre, avec... Enfin, pas mal de territoires avec le Portugal. Et puis, il y a un petit réseau INER. INER, c'est international. Enfin, bon, je ne vous le fais pas en anglais, je ne suis pas bon là-dessus. Qui a fait des rencontres à Séoul, qui a fait des rencontres au Québec, etc. Il y a un réseau. Ce réseau est alimenté surtout par l'Italie, où il y a eu, je crois, 47 biodistricts. Nous faisons partie de ce biodistrict. Nous ne sommes pas les acteurs les plus dynamiques dans cette aventure. C'est un réseau où toutes les transitions dont on parle, écologiques, énergétiques, agricoles, en matière d'usage de l'eau, en matière d'usage de la forêt, sont mises en avant. Et on apprend les uns des autres. Quand on est allé sur un biodistrict en Italie, on est revenu avec les notions d'une maison des semences, par exemple. Et puis, quand on est allé dans le Cilento, dans le sud de l'Italie, avec la Biovallée, on leur a apporté Terre de Liens. Et ils sont en train de démarrer une aventure comme Terre de Liens. Donc, on s'enrichit en Europe sur ces modèles-là. C'est assez passionnant de rencontrer d'autres territoires qui font le même job que nous.
Il y a cette transition écologique dont se missionne Biovallée, notamment auprès de l'écologie industrielle et territoriale. Comment se décline cet aspect au niveau de la biodiversité?
Les grandes lignes, en fait, autour de ça, c'est deux choses. C'est de faire travailler des communautés d'entrepreneurs, des grosses entreprises du territoire, pour voir comment, entre elles, elles peuvent effectivement que les déchets des uns puissent devenir des matières premières des autres, ou comment elles peuvent mutualiser un certain nombre de services entre elles pour améliorer l'écologie territoriale. Et puis, il y a une autre dimension, mais qui est très liée à ça, qui est de comment on structure des filières. Et par exemple, aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui est amélioration de tout ce qui est valorisation des déchets. Et là, ça passe à la fois sur accompagner, par exemple, l'entreprise Lyotard qui a mis en place une déchetterie pour les professionnels du BTP. Mais ça va être aussi accompagner des projets collectifs autour des matériothèques, des recycleries, mettre tout ça en réseau et améliorer tout cet écosystème qui nous permet de récupérer ce qui pourraient partir en déchetterie, mais qui ont moyen d'être valorisés, revalorisés, remis sur le circuit. Et donc, autour de l'écologie industrielle et territoriale, on met tout ça. À la fois cette entrée entreprise et comment elles améliorent leur propre gestion des déchets, etc. Et comment on rend les produits recyclés et revalorisés accessibles au plus grand nombre sur la vallée de la Drôme.
Noémie, comment s'articulent justement ces propositions entre industrielles, transition écologique et territoriale?
Du coup, comme disait Karine, ça va être en fonction des enjeux de filière. Par exemple, il y a toute une filière qui s'est structurée autour des déchets plastiques, notamment de la transformation des paillettes de plastique autour de, par exemple, d'offres de mobilier ou de support pour construire différents mobiliers. Il y a aussi toute une filière autour du textile. Il y a des filières qui sont en train de se développer autour des biodéchets aussi, du compost. Et donc là, ça a réuni toujours plusieurs acteurs qui soit sont issus de l'économie sociale et solidaire, soit qui sont des entreprises, qui peuvent être aussi des particuliers, ou qui sont sur des modèles hybrides, comme par exemple l'entreprise à but d'emploi de Livron, ou qui sont, je crois que j'ai cité tout le monde. Et là, le rôle de l'association, ça va être, comme disait Karine, de mettre en réseau, de soutenir le déploiement, de soutenir financièrement aussi via le programme Territoire d'innovation Biovallée, et de mettre en lien via l'animation de communautés d'acteurs aussi pour favoriser la coopération, l'échange d'informations.
Et il y a une prise de conscience des entreprises de la Drôme par rapport à ces impératifs de transition écologique?
Oui, on a pas mal d'entreprises qui sont adhérentes à l'association Biovallée, et on a notamment une communauté de dirigeants-dirigeantes d'entreprises qui s'appelle J'entreprends en Biovallée, qui est composée des 10 PME, TPE les plus importantes de la vallée, et qui là, non seulement s'engage à travers le soutien financier de l'association Biovallée via du mécénat, et s'engage aussi à travers du temps qu'elle donne, puisque cette communauté se réunit tous les mois sur des sujets en lien avec la transition écologique qui sont transversaux à leurs activités propres. Voilà. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le cœur d'activité d'une entreprise agricole ou d'une entreprise du BTP, mais c'est de voir quels sont les ponts qu'elles peuvent faire entre elles et quels sont les sujets communs, que ce soit l'accompagnement des salariés, la mobilité, l'adaptation au changement climatique, le bilan carbone. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont transversaux à des entreprises locales.
Et tout cela dans l'optique de préserver l'eau et les sols. Claude Verret, vous vouliez intervenir?
Non, je voulais simplement dire que on a, depuis 30 ou 40 ans, ou même 50 ans, on avait toujours vu les entreprises comme des ennemis. Parce qu'elle polluait, parce qu'elle curait la rivière jusqu'à l'os, parce qu'on imaginait dans certains milieux qu'elle faisait que du profit et qu'une fois qu'elles avaient fait ça, elles pouvaient se casser. En réalité, on s'aperçoit que les entreprises qui viennent d'être citées par Noémie sont bien implantées sur le territoire. Souvent, ce sont des entreprises familiales qui datent depuis très longtemps, que les gens sont souvent amoureux de leur territoire et du DIY et de la Biovallée, et que finalement, ils sont très attachés aussi par le biais de leurs salariés qui ne sont pas délocalisables ni à Taïwan ni ailleurs. Et donc, ils sont très attachés au territoire. Et en définitive, on s'aperçoit aussi que dans les transitions obligées, que les associations portent, que les citoyens et les citoyennes portent, les entreprises aussi sont encore les mieux placées parce que d'abord, elles sont souvent en retard parce que ce n'était pas une des priorités, le dérèglement climatique. Mais deuxièmement, elles ont les moyens financiers peut-être d'opérer cette transition. Donc elles sont peut-être pas les mieux placées, mais en tout cas elles sont dans une posture où elles doivent, où elles peuvent encore opérer cette transition. Et je trouve que c'est un élément constructeur. Imaginez qu'on construise un territoire en écartant les entreprises. Ça n'aurait aucun sens. Donc aujourd'hui, ils font partie de la transition écologique du territoire.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Tout cela, c'est pour préserver donc l'eau, les sols et la biodiversité. Est-ce que, Karine, cette mission se conduit comme il se doit ?
Alors, je vais plutôt renvoyer la parole à Claude, hein, parce que c'est un des administrateurs qui est très impliqué dans la commission au sol biodiversité, et notamment on a dans cette dimension-là vraiment un travail avec les acteurs du territoire, puis un travail de sensibilisation à travers Sous les arbres, rejoignons-nous. Mais là, je laisse Claude parler de ce qu'on fait dans ce cadre de cette thématique-là.
Travailler avec les entreprises aujourd'hui, ça a tout son sens. Ce matin, j'étais moi-même à Cray, chez l'entreprise Jérôme Vauvy, pour chercher des arbres, 150 arbres, plantés sur le DIWA, qui seront plantés à Borrières, à Recoubeau, à Luce, au col de Marignac, etc. Ça veut dire qu'il y a une très belle coopération entre les associations, Biovallée et Écologie au quotidien, les entreprises et des citoyens et des citoyennes qui vont aller donner des coups de main pour planter ces arbres fruitiers dans des écoles, dans des lieux publics. Donc cette coopération, c'est hyper important. Au niveau de la dynamique territoriale, je pense que le travail qui est fait par les entreprises au niveau de la réutilisation des eaux usées, particulièrement Cray, Chabriant et Luc en DIWA, est expérimental au niveau national. Et on va voir comment ça se développe avec tous les problèmes et les freins qu'il peut y avoir sur ce sujet, hein, au niveau de l'alimentation et des normes. Mais c'est expérimental. Et le travail sur l'hydrologie régénérative, c'est-à-dire retenir l'eau sur ce territoire. Des chercheurs qui sont venus il y a quelques années, de l'INRAE ou du CNRS, nous avaient dit vous allez avoir du sec, vous allez avoir de la sécheresse, alors vous allez avoir des feux. Ce n'est pas un grand mystère en zone méditerranéenne, mais les Kogis qui étaient venus de Colombie nous avaient dit exactement la même chose sans avoir des cartes et des graphiques à nous proposer, mais simplement sur une appréhension sensible. Et donc, on sait très bien que ce territoire, si on veut le garder vivant avec la faune, la flore, l'eau, la rivière, les arbres et tout, il va falloir qu'on le transforme en éponge. Et transformer ce territoire en éponge, c'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative ou ça peut être les paysages régénérés, ça peut être l'agriculture régénérative. C'est de faire que ce territoire, alors que les arbres sont en train de mourir, hein, les pins noirs sont en train de mourir, de faire qu'il reste cette éponge, c'est-à-dire planter des arbres, planter, refaire des haies, refaire des baissières, ce qu'on appelle, pour retenir l'eau dans les courbes de niveau, etc. Et ça, on le fait avec les agriculteurs. Il y a 2-3 exemples sur le DIWA. Et on va le faire avec une multitude d'acteurs. L'ONF aussi a pris bien ça en compte, c'est-à-dire qu'elle est en train de voir qu'est-ce qu'elle va mettre à la place des pins qui sont en train de mourir, c'est-à-dire des chênes, des ormes, des arbres qui résistent à la sécheresse. Donc tout ce travail, c'est une grande coopération. Je crois que le mot-clé, c'était le titre de l'année passée d'ailleurs de Biovallée, c'est la coopération en définitive. Quand je parle de ça, tout le monde va faire que ce territoire reste une éponge et il peut y avoir des projets qui seront faits avec le lycée-collège, avec les écoles, sur comment vous voyez votre territoire demain, comment vos parents ou vos grands-parents ont planté des arbres, je pense à l'école de Sainte-Croix en parlant de ça. Et donc, il peut y avoir une mobilisation générale de toute la population et de tous les acteurs dont je venais de parler sur cette économie régénérative, si on pourrait dire, ou on pourrait appeler ça économie symbiotique, comme disent certaines autres. Mais je crois qu'il y a enfin une prise de conscience que le dérèglement climatique, tous les matins, quand on se lève, on l'a à notre porte. Avec un printemps hyper tôt, des gelées probables dans quelques temps, avec des terres qui sont en août, qui sont dures comme du bois, et en ce moment, on patauge dans la boue, de l'argile. Et à un moment, le dérèglement climatique, il n'a jamais été si prégnant. Pour arriver à nier dans le DIWA ou dans la Biovallée le dérèglement climatique, il faut faire un effort intellectuel.
Noémie, il y a ensuite ces ateliers de visite apprenante. En quelques mots, en quoi consiste-t-il ?
Oui, alors les visites apprenantes, c'est un des volets de notre grande thématique qu'on appelle le tourisme durable et apprenant. L'idée, c'est de proposer à des personnes en visite sur le territoire, qu'elles soient issues de chez nous ou qu'elles viennent d'ailleurs, proposer des manières différentes d'être touristes ou voyageurs, et que ce soit des offres qui soient moins dans, de l'ordre de la consommation et plus de l'ordre de l'apprentissage. Et donc, comment s'appuyer sur les acteurs locaux qui ont des offres et des propositions à destination de citoyens, de familles, et qui pourraient être, par exemple, soit participer à un chantier, soit aller se former ou, de manière un peu rapide, hein, pas faire une grande formation, mais en tout cas être dans une approche de sensibilisation pour découvrir quelque chose, ou bien d'aller visiter des acteurs qui sont engagés dans la transition écologique et sociale. Et donc l'idée, c'est comment créer des circuits de visite qui permettent de sensibiliser, de former des citoyens, demain des familles, et qui puissent ensuite repartir chez eux avec des idées, comme disait tout à l'heure Claude, à l'échelle européenne. C'est un peu le même principe sur comment on peut soutenir l'essaimage et la diffusion de pratiques innovantes, en tout cas de pratiques de préservation du territoire. Et ça, ça passe par identifier quels sont les acteurs touristiques en local et se mettre en lien avec des organismes type office de tourisme pour proposer des voyageurs.
Et il y a également la jeunesse. Ça, c'est une part importante des travaux de Biovallée à l'adresse de ces nouvelles générations qui prendront la suite.
En tout cas, on a souhaité dans nos orientations que la jeunesse soit clairement identifiée, pas tant pour agir en direct auprès des jeunes, mais l'association Biovallée, on est plutôt en appui à tous les acteurs jeunesse, que ce soit les communautés d'enseignants dans les établissements scolaires, mais aussi les animateurs, animatrices jeunesse, les éducateurs de prévention, enfin voilà, tous ceux qui peuvent être en lien avec les jeunes de notre territoire, et donc qu'on puisse mieux accompagner ces professionnels de la jeunesse pour monter des projets autour de la transition écologique, mais aussi savoir répondre à l'éco-anxiété des jeunes, pouvoir identifier des endroits où les jeunes peuvent s'impliquer, agir et qu'ils puissent être relais de ça. Et puis, donc ça, c'est voilà. Sur le champ de la jeunesse, on est plutôt en appui aux professionnels, mais un de nos enjeux aussi, c'est de voir comment on peut mieux intégrer les jeunes dans la gouvernance de l'association Biovallée et comment on fait en sorte de pouvoir récolter leurs paroles, leurs idées, leurs envies, leurs critiques sur ce que fait l'association pour aussi continuer à enrichir, à améliorer ce que fait l'association. Et donc là, l'enjeu sur ces rencontres annuelles, sur cette thématique de la jeunesse, c'est plus de réfléchir ensemble à effectivement comment impliquer les jeunes dans la gouvernance de l'association. Et on veut pas, on s'est dit que voilà, ça aurait pas beaucoup de sens d'avoir un ou deux jeunes parmi un CA de 26, mais il faut plutôt de 24, pardon. Mais il faut plutôt réfléchir à des espaces qui leur soient dédiés, des formes d'intervention qui leur soient propices pour qu'ils puissent apporter aussi leur pierre à cette belle association de Biovallée et au territoire.
Nous allons passer à l'après-midi, donc il y aura un parcours déambulé et animé en équipe et des espaces d'information, de contribution et d'échange. Une après-midi donc plus à porter une connaissance des participants entre eux.
Noémie, je te laisse nous raconter, ouais.
C'est un peu l'écho, c'est un peu la résonance de la première heure de la journée, hein, le temps de reconnaissance entre adhérents et adhérentes.
Exactement, oui, c'est ça. On poursuit dans l'objectif d'interconnaissance, et puis sachant qu'il y a des personnes qui viennent à nos rencontres annuelles, qui viennent soit que le matin, soit que l'après-midi, donc c'est d'avoir aussi des espaces d'interconnaissance à différents moments de la journée. Sur le parcours déambulé, donc il faut imaginer que l'accueil Saint-Joseph, c'est un grand lieu assez ouvert avec un parc très arboré. Donc s'il fait beau, on aura l'occasion d'utiliser cet espace-là. Et l'objectif, là, c'est que les adhérents adhérentes et les participants se constituent en équipe et aillent déambuler sur différents espaces qui seront animés par l'association. Donc parmi ces espaces, il y aura par exemple aller découvrir ce qu'on appelle une solution locale de transition. Donc, une solution locale de transition, c'est quelque chose que n'importe qui sur le territoire peut adopter et qui va engendrer un changement de pratique. Par exemple, ça va être je décide de ne plus prendre ma voiture pour aller travailler le matin et donc je m'achète un vélo ou j'apprends à réparer mon vélo ou bien je loue un vélo électrique. Donc ça, c'est une solution locale de transition. Ou bien j'installe des panneaux solaires sur mon toit ou je me branche à un circuit local de production d'électricité. Il y a plein de solutions locales de transition qui sont portées par des acteurs et des actrices du territoire. Et nous, on fait ce travail de recensement et de portée à connaissance. Et bien sûr, il y en a encore plein qu'on n'a pas identifié. Donc, c'est un atelier d'intelligence collective pour nous aider aussi en lister des nouvelles. Un autre exemple d'animation de l'après-midi qui est plutôt en lien avec le rapport au vivant. Et là, ce sera animé par une autre personne de l'association et ce sera l'occasion de se questionner en petits groupes autour de c'est quoi mon rapport au vivant, comment est-ce que j'incarne ça dans mon quotidien, est-ce que ça me parle ou pas, comment est-ce que je nourris ma relation à mon environnement. Voilà, donc plus un espace de discussion, de questionnement. On espère aussi qu'il y ait un espace animé par des jeunes, il devrait y avoir un porteur de parole animé par des jeunes scolarisés à l'ensemble scolaire de l'archipel. Alex.
On peut peut-être aborder aussi les modalités de participation pour ces rencontres qui s'inscrivent. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 31 mars, je crois.
Effectivement, jusqu'au 31 et à l'Assemblée Générale.
On arrive à cette Assemblée Générale. Karine Melzer, je crois comprendre que vous arrêtez cette présidence de Biovallée.
Tout à fait, voilà. Ça fait 3 ans que je suis présidente, 7 ans au bureau, 8 ans au conseil d'administration de l'association. Donc, je me dis que c'est bien que ça tourne. Et donc, du coup, il y a effectivement un changement de bureau. Et à cette occasion, dans le prolongement de tous les travaux qu'on a fait sur l'évolution de notre gouvernance et faire en sorte qu'on ait vraiment... aujourd'hui, différents espaces de construction des orientations, des actions de l'association au sein des commissions, au sein du conseil d'administration, un partage des responsabilités avec des référents administrateurs, avec on a aujourd'hui une structure qui permet que les gens puissent tourner, qu'il y ait une bonne transmission entre les personnes. Donc moi, ça fait 8 ans d'investissement. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir laisser la place, passer à d'autres types d'engagement, laisser d'autres personnes venir s'engager au sein de l'association Biovallée. Et puis, on a de la chance dans l'association d'avoir des personnes qui font un peu fil rouge. Claude est un bon fil rouge de l'association, puisqu'effectivement, il y est présent depuis le début. Et donc, entre des piliers comme ça qui restent, qui peuvent véhiculer aussi l'histoire de l'association, avoir ce recul aussi de voir comment elle a évolué, ça reste important, mais c'est aussi important que ça tourne et que cette association, il y ait de plus en plus de gens qui sont en part et qui aient envie à un moment donné de prendre des responsabilités dans l'association. C'est des mandats de 3 ans, donc on ne s'engage pas non plus pour 10 ans, hein, et ça nous semble important de pouvoir mettre en place ce renouvellement régulier. Et là, pour favoriser aussi ça, aller encore plus loin dans partager des responsabilités, ce qu'on va proposer en Assemblée Générale Extraordinaire, c'est une petite évolution de nos statuts pour permettre une coprésidence. Que la présidence, ça puisse être une personne, mais 2 ou 3 en fonction, justement, du moment de l'association, des personnes, des forces en présence. Et donc, aujourd'hui, on va proposer cette évolution pour permettre une coprésidence. Et là, on s'oriente a priori plutôt vers ça, en tout cas dans les personnes qui sont aujourd'hui au bureau, au conseil d'administration et qui souhaitent pouvoir prendre des responsabilités. Elles étaient plutôt dans une optique de partager cette responsabilité de présidence. Et quelque part, ça vient formaliser ce qui existe déjà, parce que depuis les changements de statut en 2021, il y a déjà des vice-présidentes qui sont très fortes. Donc moi, j'étais présidente, mais j'avais deux vice-présidents, une vice-présidente qui était très présente. Et finalement, ça vient quelque part formaliser ce fonctionnement qui était déjà réparti au niveau de la présidence.
Claude Verret, chaque présidence influe-t-elle aussi sur le parcours de Biovallée?
Voilà une question. Oui, bien évidemment, la personnalité du président et de la présidente influe. Surtout qu'on a eu 6 présidents, une présidente. C'était une bonne nouvelle, enfin, à une époque où féminiser les associations et les présidents, ce n'est pas que nécessaire, c'est une obligation pratique. Donc, bravo pour cette présidence. Ça a apporté un souffle totalement nouveau. Puis, Karine, venant de l'éducation populaire, ça a apporté ce plus. Et puis, je ne vais pas être dithyrambe, mais elle a su gérer ça avec souplesse et lucidité, parce que ce n'est pas facile de gérer Biovallée, puisqu'il y a un collège d'entreprises, un collège associatif, un collège d'élus et un collège de citoyennes et citoyens. Et donc, il faut naviguer là-dedans avec subtilité, il faut froisser personne, il faut écouter tout le monde. Et donc, c'est un vrai challenge. Et bon, donc, bravo. La personnalité, oui, parce qu'il y a des personnalités. Si vous avez un président qui vient du monde des élus, ce n'est pas tout à fait la même sensibilité qu'un président qui vient du monde associatif ou bien qui viendrait du monde de l'entreprise. Donc oui, ça joue beaucoup. Par contre, on est 24 au conseil d'administration. Moi qui suis depuis plus de 50 ans dans le monde associatif, on a un excellent conseil d'administration avec des gens qui viennent de milieux très différents mais archi compétents, qui ont des parcours de vie et des parcours de savoir-faire et de savoir-être qui est absolument incroyable. Moi, je ne l'ai jamais rencontré dans aucune association. Pourtant, sur ce territoire, j'en ai fondé pas mal. Et je suis très optimiste pour ce qui va se passer au niveau de la gouvernance de Biovallée. On verra. Mais bon, c'est le challenge, c'est la démocratie associative. Hein. Et donc, ça fait toujours plaisir de voir des associations qui évoluent. On a aussi, et ça fait partie du truc, on a un nombre d'adhérents important, mais aussi on a un très bon staff de salariés. Et ça donne de grande qualité, honnêtement, de très grande qualité. Et ça donne une stabilité supplémentaire à l'association Biovallée. Je pense que Karine va quitter une association en pleine forme et avec une belle aventure qui s'annonce encore et une belle aventure que tu as su bien gérer.
Noémie, vous-même, donc chargée de mission vie associative et jeunesse, est-ce que Biovallée, à vos yeux, a pris de l'ampleur depuis que vous y êtes ?
Oui, alors moi, je me retrouve à être la plus ancienne alors que je ne suis là que depuis 4 ans. Mais ça montre que l'association a pas mal bougé, s'est restructurée autour d'une nouvelle équipe salariée plutôt récente. Et plein de choses ont changé, la définition des orientations... l'élargissement de la gouvernance aussi avec la création de commissions ouvertes à des adhérents et adhérentes qui permettent, qui créent plus d'espace de participation, de concertation au-delà du conseil d'administration. L'organisation de nouveaux temps aussi ouverts aux adhérents. Enfin, on sent que ça donne une image d'une association en tout cas qui s'ouvre un petit peu plus que ce qu'elle ne l'était avant. Et puis d'ailleurs, je trouve que c'est révélateur là pour les rencontres annuelles 2025. On a dépassé les 100 inscriptions et c'est la première fois qu'on va accueillir autant de gens sur un événement comme celui-ci.
L'émission touche à sa fin. Biovallée, on peut le trouver aussi sur Internet avec l'adresse biovallée.net. Et là, on peut se tenir au courant de toute l'actualité de cette association et les modalités aussi, peut-être, pour participer à cette Assemblée Générale. Est-ce qu'il y a un point limite d'inscription ?
Sur les ateliers et l'après-midi et même le temps de l'Assemblée Générale, non, tous ceux qui souhaitent passer un bout de journée ou toute la journée avec nous, alors sauf pour les repas, puisque maintenant la date est close pour les inscriptions au repas, mais non, bien sûr, tout le monde, c'est grand ouvert et c'est vraiment une journée qui est faite pour se rencontrer, poser des questions, avoir des réponses, soulever des idées, construire la suite. Donc tout le monde est bienvenu sur cette journée.
Eh bien, je vous remercie tous trois, donc Karine Melzer, Claude Verret et Noémie Gaillard, de nous avoir donné un peu de votre temps sur RDIWA pour nous parler donc de cette Assemblée Générale et puis de ces rencontres annuelles 2025 de Biovallée.
Merci beaucoup.
Et merci à la radio, merci à vos auditrices et auditeurs.
Bonne soirée.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.